Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
Vincent Renaud sur Nutri Radio, ça fait plaisir de vous retrouver en studio puisqu'on a fait quelques émissions lors d'un événement à Paris en étant en mode... Moi j'aime bien ces événements, ces
en mode route.
En mode...
Ouais, route.
Ouais, voilà, route, très très improvisé. Je trouve c'est sympa, une petite ambiance sympathique.
Ouais, j'aime bien aussi.
C'est vrai, hein, on devrait... Est-ce que, chers auditeurs, vous seriez pour qu'on fasse une espèce de Tour de France avec Vincent Renaud, une tournée?
Ah ben, avec plaisir.
Ce serait génial, et il prendrait sa guitare.
On prendrait la guitare et alors j'étais très content, enfin très content voire même étonné, mais c'est vrai que le succès c'est quelque chose auquel nous on n'est pas tellement habitué.
Ouais, ça raconte le mec.
Les médecins, non mais on n'est pas habitué à ce genre de choses. Oui, j'aurais voulu, j'ai du succès dans les amours, c'est la chanson de...
Vous avez été étonné par quoi?
Eh bien ce week-end j'étais à un congrès à Paris sur deux jours et j'ai eu... plein de personnes qui sont venues voir des médecins.
Ouais.
Elles se reconnaîtront. D'ailleurs, je les embrasse toutes les trois. On a fait une soirée sur la péniche.
Non.
Trois médecins.
Ne nous en dites pas plus.
Non, il ne s'est rien passé. Elles sont jeunes. Elles travaillent dans un centre à Paris qui fait de la médecine anti-âge, qui est très connu, qui a été créé par monsieur Claude Dalle.
Le suspense.
Et alors, je vais pas donner leur nom.
Bah non, mais non.
Sur l'antenne.
Et donc,
elles étaient super fans de notre émission. J'allais dire mon émission.
Bah non, mais c'est votre émission. Moi,
c'est
je suis
notre.
Là,
oui, mais c'est aussi l'animateur qui.
Ça sert pas à grand chose. Mais non, mais c'est vous. Vous savez, si les gens écoutaient cette émission pour moi, ils apprendraient pas grand chose déjà.
C'est mais franchement, et avec, elle me dit, mais alors, elle savait tout de ma vie. Et je lui dis, mais comment tu sais ça? Elle me dit, mais parce que je t'écoute sur Nutri Radio. Bon, tu parles de ta fille, tu parles de ton fils, de ta femme.
Alors dites-nous un truc, scoop que vous n'avez encore jamais dit à personne. Moi, je vais vous dire.
Ouais.
Vincent Renaud, sous ses airs gaillards et de grande gueule, il est hypersensible. Voilà, sachez-le.
C'est
un sentimental. Bon, merci à notre partenaire laboratoire COPMED, auquel on est très fin, sur lequel je ne sais même plus parler français. De toute façon, avec les textos, machin, moi, je ne sais plus parler français.
Tu causes pas la France.
Je cause plus. En tout cas, merci laboratoire COPMED. J'allais dire, on est très sensible à leur soutien. Et c'est vrai qu'on a besoin de partenaires engagés, comme ça, qui ont compris aussi l'importance d'aller démocratiser ces sujets de prévention santé, des actifs naturels qui sont en prévention et aussi en accompagnement, parfois, et même en post-traitement. Donc ça, c'est pour ça qu'on insiste toujours sur le fait de bien accompagner une supplémentation à un suivi médical pour pas, parce que comme on sait que c'est actif tout ça, c'est efficace, il faut que ce soit encadré parce que mauvaise utilisation égale moins d'efficacité, voire quelques possibles dangers et complications. Donc merci au laboratoire COPMED. Merci également à vous qui nous écoutez et ce sera la dernière digression avant d'attaquer un sujet d'importance
international
et fondamental.
Fondamental.
Et, oui, donc de vous abonner si vous nous écoutez en podcast, que vous êtes nombreux à nous écouter, mais pensez un petit like, un petit truc, je sais pas, un petit partage. On est mal référencé là sur le Spotify, c'est fou. Alors qu'il y a plein d'écoutes et les gens, est-ce que vous pouvez avoir une écoute active, s'il vous plaît? Si
oui.
Chacun d'entre vous se mobilise. Si, est-ce qu'on a pas une petite musique triste?
Non, ça, il va faire chialer dans les chaumières. C'est bon.
D'accord. Allez, très bien.
Bon, en tout cas, écoutez Nutri Radio et venez au Nutri Talk le 13.
Alors, attends, il y a un week-end là qui s'annonce d'enfer. Le 12 et 13 juin, ça se passe à Paris.
Avec la Terre s'arrête.
Voilà. Enfin, j'espère pas quand même qu'elle va continuer à tourner. Mais 12 juin, avec le premier congrès rencontre du CINAMIEF, qui est le syndicat, premier syndicat national pour la médecine fonctionnelle. Et donc, c'est le président, c'est Vincent Renaud. Belle journée le 12 et le 13, eh bien, il y a le Nutri Talk Gala. On a fait exprès d'ailleurs de coordonner ces deux journées. Si vous venez sur Paris exceptionnellement, comme ça, vous faites le vendredi, le samedi. Et on vous fera suivre l'événement parce que là c'est complet Nutri Talk Gala, je vous le dis, c'est pas pour mais vous rejeter.
Nous on n'est pas complet.
Mais donc,
et d'ailleurs les médecins que j'ai vus ce week-end m'ont tous dit qu'ils seraient là.
Mais ils seront tous là. Bon, bref.
J'espère, en tout cas.
Sinamief, merci à vous, Vincent, de cette
si
action.
Si vous voulez le, voir le programme du, ouais. du 12...
On
vous
peut attaquer
allez,
l'émission, là, maintenant.
Vous allez sur le site du Sinamief, il y a tout le programme.
Voilà.
Et Sinamief.org.
On embrasse, évidemment, tous les auditeurs et tous les Acadiens. Et tous les Acadiens. Bon, allez, on va parler. Vous savez quoi, vous voulez.
Soyons sérieux,
oui,
parce
oui,
que.
Oui,
alors,
oui.
c'est du fond et du fun, oui. mais là, pour l'instant, on fait du fun.
Oui, pardon, parce qu'on voulait parler de la.
Ah, la science, de la grande science.
Oui, de la science, parce que là, il y a des sujets comme ça, qui, surtout vous, au fil des congrès, de vos rencontres et des patients, donc ça fait évoluer tous les sujets. Et donc là, vous dites, mais Fabrice, c'est un truc qui revient quand même pas mal. Cette histoire de perméabilité intestinale, c'est vrai que les gens, ils ont des inconforts digestifs, plein de choses, mais on oublie aussi parfois le lien avec les hormones. Et donc, voilà, parler un petit peu
d'un angle nouveau.
Oui,
vous,
voilà.
vous voulez m'amener sur ce terrain ? Eh bien oui, bien sûr, on peut aborder le sujet intestin-hormones. C'est un sujet qui est de grande actualité, tout le monde en parle, il suffit de voir les réseaux sociaux. Mais je trouve que le sujet n'est pas toujours très bien traité. Alors on sait par exemple que les problèmes de thyroïde, en particulier les thyroïdites auto-immunes, Hashimoto, pour ne pas la citer, et les maladies, ce qu'on appelle basse d'eau ou maladies de Graves, hyperthyroïdie, qui sont liées à un dérèglement du système immunitaire, le point de départ, c'est toujours l'hyperperméabilité intestinale. Donc la plupart des maladies auto-immunes hormonales, diabète, insulinorésistance, et bien sûr le problème de thyroïde, de surrénal, les problèmes des femmes, en particulier endométriose, syndrome d'ovaire polykystique, syndrome prémenstruel, etc. Tout se passe au départ sur le microbiote et la porosité intestinale. Et c'est pour ça qu'effectivement, de plus en plus de mes patientes qui viennent me voir pour des dysfonctions hormonales, qui ne sont pas dans la maladie, hein, on n'est pas dans la pathologie, on est dans la dysfonction, les troubles fonctionnels plus exactement, je commence toujours par traiter leur intestin. Alors ça les surprend dans un premier temps, et puis ensuite quand elles voient les résultats, j'ai un exemple avec une de mes patientes que tu connais.
Oui, bah, Louise.
Non, Cindy.
Louise. Non, le mec qui dit aucune confidentialité. Mais oui, Louise Dubois.
Ah,
mais non,
pas Germaine. Ouais, alors bonjour Germaine, je vous embrasse.
Non.
J'ai pas mal d'exemples, dont une qui avait des vrais problèmes hormonaux, en particulier syndrome des ovaires polykystiques, avec des problèmes dermatologiques associés, et elle était très surprise qu'on commence par traiter son intestin, sa porosité, sa dysbiose, et tout est rentré dans l'ordre. Et elle a dit, mais c'est miraculeux, quand je pense que mon gynéco, il voulait me mettre sous pilule, moi je voulais pas. Donc on voit bien que là, ici, la médecine fonctionnelle a beaucoup d'avance par rapport à cette médecine de pompier qui est nécessaire, mais qui est parfois un peu agressive, pas toujours à juste titre. Il faut mieux traiter la cause que le symptôme.
Il faut travailler main dans la main de toute manière, et quand on voit les problèmes liés à cette hyperperméabilité intestinale, c'est vrai qu'il faut vraiment être dans la prévention là, pour le coup.
Ah ben là, on est au tout début de la chaîne de tout ce qui va déclencher ces maladies de civilisation et les problématiques hormonales, ça.
Alors,
c'est sûr.
Est-ce que le mucus, c'est le grand oublié? Parce qu'on parle beaucoup des jonctions... Oui. J'arrive plus à parler.
Les jonctions zérées.
Mais moins de mucus.
Moins de mucus, effectivement, ça va altérer forcément la perméabilité intestinale. Alors déjà, pour petit rappel, pour ceux qui se demandent mais pourquoi ils parlent de perméabilité, c'est quoi cette histoire? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a encore beaucoup de gastro-entérologues ou de médecins qui disent que ça n'existe pas, que c'est une invention, que la porosité, finalement, quand on fait une coloscopie, on voit rien de spécial, mais c'est pas la coloscopie, c'est microscopique. Il faut savoir que l'épithélium intestinal, c'est une monocouche de cellules, donc c'est vraiment très très fin. C'est des cellules qui se renouvellent très vite, tous les 3 à 6 jours. 50 milliards de cellules naissent et 50 milliards de cellules meurent par jour dans votre intestin. C'est la plus grande surface d'échange de l'organisme, un terrain de tennis et demi, et c'est le premier organe immunitaire de notre organisme. 70% des cellules de l'immunité se trouvent dans l'intestin. C'est dire l'importance de cette barrière intestinale. Mais c'est vrai que sans mucus, qui est évidemment la couche de protection qu'il y a au-dessus de cet épithélium, la barrière intestinale, on va dire que l'épithélium intestinal serait effectivement moins efficace. Le mucus, il a plusieurs fonctions. Il a une fonction déjà de nourrir le microbiote et surtout de l'héberger. Il lui offre le gîte et le couvert, c'est quand même sympa. Il est cool.
Ah bah oui.
Ah, et oui, à la naissance...
il est super hot.
Il est super cool. J'offre le gîte et le couvert, les gars, c'est cool. Sauf que ce mucus, il est composé, donc ce qu'on appelle d'un glycocalyx, c'est une glycoprotéine, on va faire simple parce que les gens vont être perdus, et qu'il a besoin évidemment de nutriments pour se renouveler. Il a besoin de tout un système enzymatique très important pour se renouveler, notamment les fucosyl transférases sont des enzymes très présentes pour ce renouvellement. Il est constitué de deux acides aminés, la thréonine et la sérine. Il est constitué, bien sûr, de glycocalyx, donc ce sont des sucres, des polysaccharides, mais pas n'importe lesquels. Hein. On parle beaucoup de HMO, les Hilk Milk oligosaccharides. C'est extrait du lait maternel, en fait, puisque le nourrisson à la naissance n'a pas de mucus. Et s'il a la chance de pouvoir...
Être allaité,
prendre le sein de sa mère, s'il a la chance d'avoir un allaitement maternel, il va pouvoir bénéficier de ce fameux HMO qu'on trouve dans certains compléments alimentaires qu'on appelle 2-fucosylactose de manière plus classique, parce que ça va l'aider à développer son mucus de manière rapide. Du coup, le microbiote va s'implanter rapidement, va s'ancrer sur ce mucus, va créer en fait un partenariat. Je t'offre le gîte et le couvert, ça c'est le rôle du mucus, mais toi en même temps, tu me protèges, tu contrôles les pathogènes, tu contrôles l'équilibre nutritionnel pour pouvoir me permettre de renouveler. Vous avez par exemple une bactérie qu'on connaît tous qui sert à renouveler le mucus, qui s'appelle Acarmantia mucinifila, qui est une bactérie très connue maintenant de beaucoup de laboratoires de compléments, puisqu'ils en proposent assez facilement. Mais il n'y en a pas besoin forcément de prendre de l'Acarmantia mucinifila pour faire cette couche de mucus. D'ailleurs, il ne faut pas trop non plus d'Acarmantia, parce que l'excès n'est jamais très bon dans les probiotiques.
Pas plus d'un ou deux verres par jour, hein, d'ailleurs.
Un peu plus, c'est ça.
Non, je vous interromps parce qu'on va marquer une pause.
On va marquer une pause. Alors, Acarmantia, on se retrouve après la pause.
Voilà, et on se retrouve juste après ceci.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts, notamment en micronutrition, il propose aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Vincent Renaud sur Nutri Radio. Aujourd'hui, on parle de cette
perméabilité.
Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Hyperméabilité. Attendez, quoi? Hyperméabilité, quoi?
Non, hyperperméabilité.
Bah oui, hyperperméabilité.
Dites-le en anglais, c'est plus facile.
D'accord. Hyper.
Non, leaky gut syndrome.
Ah voilà, leaky gut syndrome. Non, mais hyperperméabilité. Oui, c'est parce que mon cerveau a bugué. Sinon, vous avez reçu la nouvelle PES6.
Je pense que monsieur Fabrice est dyslexique.
Ouais, je dois avoir un truc comme ça. Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça qui est dit.
Je suis dyslexique, je suis trislexique et je suis quatrislexique.
Et il était divergent.
Bon, allez, on repart de cette hyper perméabilité intestinale. Et vous disiez juste avant que je ne vous coupe sans vergogne que.
L'importance du mucus.
L'importance du mucus et de l'Acarmantia, vous en avez parlé. D'ailleurs, on aura une référence internationale de l'Acarmantia lors de ce Nutrito Gala. Petite transition. Vous voulez dire quelque chose en plus sur l'Acarmantia?
Non, l'Acarmantia, oui, si je voulais dire que il y a pas mal de compléments alimentaires aujourd'hui sur le marché qui proposent des traitements assez complets, hein, ce qu'on appelle all-in-one, tout en un, c'est pratique, j'aime bien ces produits-là, et qui apportent pas forcément de l'Acarmantia, mais qui apportent des fibres. Des fibres d'acacia, par exemple, d'acacia, c'est très intéressant. Vous avez un label, d'ailleurs, qui est reconnu aujourd'hui, qui est une marque déposée qui s'appelle Fibre Gomme. Cette fibre d'acacia sans FODMAPS, mais vous avez aussi d'autres fibres intéressantes, permettent de produire des Acarmantia, de nourrir l'Acarmantia et d'augmenter la production, ce qu'on appelle effet prébiotique.
Et donc elle favorise la production directement de mucus.
Et de mucus.
La fibre d'acacia en particulier.
En particulier, elle est réputée pour augmenter la production du mucus au niveau de l'intestin, qui effectivement joue un rôle prépondérant dans nos défenses, dans la protection de la perméabilité. Et qui va jouer un rôle important pour héberger le microbiote. On sait que les personnes qui ont un polymorphisme génétique sur cette enzyme FUT2 dont je vous ai parlé, qui régule la production du mucus, ils ont un défaut de mucus, ils ont un microbiote qui va moins bien se développer, en particulier au niveau des bactéries, ce qu'on appelle qui sont des bactéries de fermentation, les bifidobactéries, les lactobacilles, se nourrissent beaucoup de ce mucus, et c'est vrai que le défaut de mucus va perturber ce microbiote. Donc ça, c'est, je dirais, aujourd'hui pas suffisamment développé. Et certains labos, maintenant, proposent des formules avec, bon, bien sûr, des prébiotiques qui permettent la production des butyrates, dont on parlera, j'espère, parce que ça, c'est très important pour nourrir le microbiote. Mais on sait que les personnes qui ont un défaut de mucus vont produire moins de butyrates. Les bactéries butyrates productrices, hein, qui produisent ce qu'on appelle les acides gras à courte chaîne, sont bien sûr très nourries par ce fameux mucus. D'où l'importance d'apporter aussi, pour ces personnes qui ont un polymorphisme génétique, ce fameux sucre oligosaccharide de fucosylactose qu'on va trouver dans les formules. Et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir prévu d'intégrer du 2-fucosylactose avec tous les autres composés dont on va parler, qui régulent cette perméabilité intestinale.
Alors, parler de polymorphisme génétique. Bon.
Qu'est-ce que c'est ?
Oui, et comment on peut savoir ? Est-ce que c'est autorisé ? Déjà, est-ce que c'est conseillé d'aller chercher ces polymorphismes ou pas ?
Oui, alors ça se fait de plus en plus. Et alors, c'est pas forcément très cher. Hein. Les polymorphismes génétiques, c'est tout simplement d'aller voir un peu plus profondément au niveau de notre génome s'il y a des gènes. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir notamment, hein, mais s'il y a des gènes qui ont du mal à se dupliquer. C'est-à-dire que les gènes, ils s'expriment ou ils ne s'expriment pas. Et on sait que c'est différent des maladies génétiques, hein, attention de ne pas confondre. Une maladie génétique, c'est que lorsque votre ampoule elle est grillée, il faut changer le gène, il faut changer l'ampoule. Il n'y a pas 36 choses. Là, je cite mon ami Christian Vélo, que j'embrasse et qui sera là d'ailleurs le 13, et j'en suis ravi. Christian, j'aime bien quand il parle d'épigénétique, il dit voilà, un gène, quand il ne s'exprime pas, un polymorphisme génétique, c'est l'ampoule n'est pas grillée, mais au lieu de s'allumer, quand on appuie sur le bouton, ben, il s'éteint, et réciproquement, au lieu d'éteindre l'ampoule, elle s'allume. Ça veut dire qu'on a un petit court-circuit au niveau du gène qui ne s'exprime pas forcément toujours très bien, ce qui va perturber la production de certaines enzymes ou de certaines protéines qui seront moins efficaces. Alors, c'est pas comme une maladie génétique où là, le gène, il est cramé, on peut plus rien faire. L'ampoule est brûlée, il faut la remplacer. Alors que les polymorphismes génétiques, on remplace pas le gène, mais par contre, on peut moduler l'expression du gène en changeant son environnement, en méthylant en particulier. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir des composés comme la L-méthionine dans les produits pour la perméabilité intestinale.
En méthylant, là vous êtes obligé. Méthylant. À chaque fois on ouvre un tiroir, parce qu'on va être obligé d'expliquer la méthylation rapidement.
C'est quoi la méthylation ? Bah, c'est une réaction naturelle qui se fait dans toutes nos cellules qui permet le transfert d'un groupe méthyl. Ça vous va ?
Écoutez, quand l'explication est plus confuse que l'origine...
C'est-à-dire que là, j'ai embrouillé tout le monde. C'est quoi un radical méthyl ? C'est un carbone et trois hydrogènes, CH3. Donc les radicaux méthyl, lorsqu'ils se transfèrent d'un endroit à un autre, ils modifient la structure d'une molécule pour l'activer ou la désactiver. En l'occurrence, on prend un exemple tout bête. La sérotonine, pour se transformer en mélatonine, doit être méthylée. Donc c'est une méthylation, on rajoute un CH3 sur cette molécule.
Voilà,
si on voit dans les voies de détoxication, par exemple de la dopamine, les COMT, les catécho-O-méthyltransférases, sont des enzymes de méthylation qui vont permettre la transformation de la dopamine en adrénaline, en noradrénaline, puis adrénaline. Et il y a des méthylations aussi dans le foie pour les hormones, on les détoxifie par des voies de méthylation. Et les gènes s'expriment ou pas selon qu'ils sont méthylés ou pas. Donc c'est une réaction qui est fondamentale pour la survie de notre organisme, et aussi bien dans l'expression de nos gènes, donc dans les cancers, aussi bien dans les voies de détoxication au niveau du foie, parce que si vous avez une mauvaise méthylation, bah vous détoxifiez mal et vous accumulez du coup les toxines, les métaux lourds ou les perturbateurs endocriniens. Et puis au niveau cérébral, c'est vrai que la méthylation, on n'en parle pas assez, régule la production de la phosphatidylcholine, qui est en fait la gaine de myéline qui protège nos neurones. Donc voilà, quelqu'un qui ne méthyle pas, quelqu'un qui serait un peu neuneux, on va dire, mais tu ne méthyles pas ou quoi ?
Ah oui.
Alors ça peut être une insulte.
Ah, tu méthyles pas bien quoi ça haut ?
Ouais, ça va pas, t'es hypo, tu méthyles que dalle toi.
Mais non, mais c'est pas mal, ouais, c'est pas mal.
Donc on pourrait dire, voilà, quelqu'un qui méthyle pas bien, alors il y a un moyen de le savoir. Ah, je vous pose la question.
Alors comment on peut savoir ça, si on méthyle bien ?
Eh ouais, bah, il faut doser l'homocystéine.
D'accord.
C'est l'homocystéinémie qui va nous dire si on méthyle bien ou pas. Alors on s'égare de la perméabilité intestinale, mais pas tant que ça. Parce que moi je vais doser mes polymorphismes FUT2, fucosyltransférase 2. S'il y a un polymorphisme, si vous êtes homosexuel, mais homozygote ou hétérozygote, c'est pas la même chose. Donc, hein, hétérozygote, ça veut dire que vous avez un gène qui fonctionne et l'autre moins. Ça, c'est dire bon, ben, c'est forcément le père ou la mère qui a transmis le gène défaillant. Homozygote, c'est que les deux gènes sont défaillants. Donc, il y a un polymorphisme sur les deux. Alors, quand on est fut de homozygote, forcément, on a une production de mucus beaucoup moins efficace et ça va générer de la dysbiose, une perte des butyrates et des gros problèmes de porosité intestinale.
Et là, le lien est fait. Ça, c'est bien. Vous êtes retombé. Pam, pam, pam. Donc, bravo, mon cher Vincent.
Ah oui, la pirouette était bonne.
La pirouette. Hein. Non, mais c'est important de bien disséquer, d'ouvrir pour expliquer.
On croit qu'on digresse, mais pas du tout.
Mais non, pas du tout. On sait, c'est un conducteur. D'ailleurs, c'est
tout,
un prompteur.
Mais tout, c'est un prompteur. Tout hein est révisé. D'ailleurs, je lis mon prompteur
voilà,
devant moi.
Et moi aussi.
Alors,
je parlais de dysbiose.
Tout est live, tout est directement. C'est, oui, tout est dans le cerveau.
Pour terminer, on continuera la semaine prochaine, évidemment. Mais vous parlez de dysbiose. Est-ce que c'est. Et c'est ce que les gens sont enclins à penser, que c'est la cause de la perméabilité.
C'est
alors,
pas faux.
Ou alors c'est son amplification.
C'est pas faux. C'est vrai qu'une dysbiose peut provoquer évidemment une hyperperméabilité intestinale. Un défaut de production de mucus peut produire une augmentation de la porosité. Certains aliments et nutriments peuvent augmenter la porosité. On parle du gluten beaucoup, qui serait un agent important dans cette production.
Alors ça c'est vrai parce que j'ai entendu dire, pas longtemps, par un professeur dont je tairai le nom, mais oui, très crédible sur la scène internationale, qui disait que attention, le gluten, attention à ne pas tomber dans un tout sans gluten pour pas dans 10 ans devoir dire ah, on s'est trompé, il faut réintroduire le gluten. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait, suis entièrement d'accord avec cette théorie. Et là, je m'oppose un peu peut-être avec mes collègues, notamment Stéphane. Je sais, Stéphane Résimont, il interdit complet le gluten et le lait de vache. Moi, je suis très pondéré, je suis justement très prudent. Il y a des gens qui digèrent bien le gluten, qui ont des enzymes qui fonctionnent, puisque c'est par les enzymes qu'on va dégrader cette protéine qui est le gluten, qui est présent dans la plupart des céréales, notamment le blé, le seigle, l'avoine et l'orge. Et c'est ce qui leur donne ce côté un peu onctueux. C'est vrai que c'est bon, le gluten. Et les bonnes pâtes, les pâtes avec du gluten, c'est meilleur que des pâtes sans gluten. Mais attention de ne pas trop en consommer. Notre système digestif n'est pas équipé pour pouvoir les découper. On n'a pas les enzymes, on n'a pas la qualité des enzymes suffisante pour pouvoir le dégrader.
En Italie, par exemple, ça mange du gluten en voiture, et il y a des gens qui sont plutôt en même meilleure santé qu'en France.
Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de la dysbiose, de la porosité, des maladies auto-immunes, ils ne sont pas forcément très bien lotis, ils ne sont pas mieux que nous. Et je pense que les études montrent qu'aujourd'hui, on mange autant de pâtes en France qu'en Italie. C'est ce que j'ai vu récemment quand on voit le nombre de restaurants italiens qu'il y a en France. C'est d'ailleurs hallucinant. J'ai presque plus de cuisine italienne en France que de restaurants français.
Mais d'ailleurs, dans l'Italie, vous y allez, vous avez aussi, où sont les chefs? Mais ils sont en France.
Ils sont tous partis.
Non, mais
effectivement,
bon, c'est intéressant,
on est très friands, j'adore la cuisine italienne, mais c'est vrai que le gluten, alors c'est pas un effet de mode, on appelle ça les non-gluten sensibility non-celiaque, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas de maladie cœliaque, mais qui sont sensibles au gluten, et il faut éviter effectivement de trop charger. Moi, je le constate, hein, ça me ballonne, je ne le digère pas très bien, mais ça ne m'empêche pas d'en manger de temps en temps. Donc, il faut relativiser entre l'interdiction, comme le disent certains, la tolérance du gluten à une quantité raisonnable, parce que ça va agir sur une protéine qui s'appelle la zonuline. Et la zonuline, elle a des côtés très inflammatoires. En particulier, j'aimerais faire de la science.
Oui.
Et j'aimerais faire un scoop.
Alors, attention, c'est parti pour le scoop.
C'est délire.
La musique n'a rien à voir. Allez-y.
Est-ce que vous connaissez la myosine light chain kinase, la MLCK?
Attends, redis-le avec la musique.
Myosine light chain kinase.
Non, pas du tout.
Alors, c'est une kinase, donc une enzyme très importante qui se trouve dans les cellules de l'intestin. Et c'est elle un peu les chefs d'orchestre de cette porosité intestinale. Donc en fait, il y a des récepteurs au niveau de vos cellules de l'intestin. Mmh. Quand vous avez certaines molécules un peu agressives ou certaines bactéries qui s'accrochent sur ces récepteurs qui sont au pôle apical, pôle apical c'est en haut et basal c'est en bas, hein, c'est facile. Okay.
Une cellule en haut, basale en bas.
Voilà, une cellule en fait, elle est constituée. Enfin, les cellules qui forment des barrières. Il y a une barrière.
ça me rappelle des professeurs qui vous disaient un truc. Mais oui, ils vous disaient un truc improbable. C'est facile. Vous retenez et vous donnez à moi un mémotechnique.
Ah oui, là. Donc apical.
Apical,
donc,
c'est en haut, évidemment.
C'est la membrane qui est au-dessus, qui est en contact avec la lumière intestinale. apical. Et là, le pôle basal, quand on dit basal, c'est à la base de la cellule, donc côté plutôt de notre corps, de notre système vasculaire, on va dire. Hein. Tout le système du mucus est vasculaire. Donc, un est à l'intérieur, basal, apical. Donc, au pôle apical, il y a des petits récepteurs. Et ces récepteurs, toll-like récepteurs, on appelle ça, bon, il y a ça des noms très, très, très scientifiques. Et bon, les TLR, ça fait très chic. Et tiens, d'ailleurs, ça pourrait être un nom d'un produit, le TLR.
Continue à digresser, évidemment. Continue à nous embrouiller.
Ou le TER. Non, c'est ça. Les toll-like récepteurs. En fait, quand vous avez une molécule qui s'ancre sur ce TLR, ça va déclencher une activation de la MLCK, myosine light chain kinase. La musique ?
Allez-y.
MLCK.
Oh là, ça fait peur. Hein.
Et en fait, ça va exciter, la MLCK va exciter au niveau du noyau de votre entérocyte toute une réaction, une cascade de réactions qui va contracter les fibres musculaires qui sont de chaque côté de la cellule intestinale. Les filaments d'occludine, myosine, etc.
Je suis complètement perdu dans cette émission. Moi.
Et donc, ça se contracte. Si vous voulez, c'est un peu la cellule de l'entérocyte. C'est un peu comme quand vous mettez du vinaigre sur une huître. Vous avez vu ? Elle n'aime pas, elle se rétracte un peu. Si elle est vivante.
Exact.
C'est toujours manger les huîtres vivantes, sinon c'est qu'elles sont...
C'est un bon signe d'ailleurs de mettre un peu de vinaigre sur l'huître pour voir si elle se rétracte, pour voir si elle est vivante.
Et ben en fait, la protéine de gluten ou n'importe quel type de protéine pour lequel on est hypersensible, quand elle s'ancre sur ces fameux récepteurs, elle déclenche l'enzyme en question, la myosine light chain kinase, qui va rétracter, on va dire, les jonctions en haut des cellules. Donc là, on est au pôle apical. Ça va se rétracter et puis ça va faire comme un entonnoir. Du coup, ça va s'ouvrir entre les cellules. Il y aura des espaces entre chaque cellule. Et c'est là que se passent effectivement les fameuses fuites de l'intestin. Mais il existe une porosité fonctionnelle et physiologique qui est liée à notre système digestif. Donc il ne faut pas non plus bloquer ces systèmes parce qu'ils sont là pour ouvrir et fermer. Et le gluten en particulier... va agir sur une protéine qui est la zonuline. La zonuline va s'accrocher sur les récepteurs et va déclencher une augmentation de la porosité. Donc ça, c'est une réalité physiopathologique. Maintenant, est-ce que tout le monde est sensible au gluten ? Il y a certainement des gens, oui, d'autres, non. Donc il ne faut pas généraliser, il ne faut pas interdire.
Attendez, maladie cœliaque.
C'est les allergies, cela, c'est
intolérance au gluten avérée. Ça représente en Europe combien de pourcentage de la population ?
À mon avis, je dirais moins de 5%.
1%.
1%, oui.
Et en Italie, légèrement plus élevé, mais assez comparable quand même, environ 1 à 1,5%.
Voilà.
Alors qu'on mange énormément de gluten.
Oui, mais la maladie cœliaque n'est pas forcément dépendante de la consommation du gluten.
C'est ça. D'où le...
Voilà.
La réhabilitation, peut-être.
Après,
un petit moment.
Combien y a-t-il de gens, ce qu'on appelle des non-cœliaques sensibles au gluten ?
351. On a mis n'importe quoi, c'est la fin de cette émission.
Bon, on vous a perdu, mais on n'a pas parlé des ingrédients pour la porosité.
Et vous pensez quoi
la glutamine
Faites-moi un tour des ingrédients, selon vous, des ingrédients. Quel est selon vous, docteur Vincent Renaud ?
La formule idéale ?
Attendez.
Oh là là. Mais là,
attendez. Docteur Vincent Renaud, selon vous, quelle est la synergie idéale pour une bonne...
régulation.
Attendez, on va la refaire. Vincent Renaud, quelle est selon vous la synergie idéale pour lutter contre l'hyperperméabilité intestinale en sachant que...
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Pollux sur la musique de suspense, c'est horrible. Alors dites-nous.
Alors, dans l'ordre chronologique, je dirais déjà la glutamine, même si beaucoup... disent qu'il faut éviter la glutamine dans le cancer, etc. Mon ami Jean-Luc Mousset...
De toute façon, sous réserve, tout ça, c'est sous réserve d'accompagnement de votre professionnel
cancer,
de santé.
Cancer, pas cancer, la L-glutamine, environ 3 grammes. Un peu de L-méthionine.
Non, donnez pas les dosages, donnez juste
L-glutamine, L-méthionine, déjà. La tréonine et la sérine, je vous l'ai dit, pour le mucus, en y mettant du fucosylactose, 2 fucosylactose de préférence. Ensuite, on va réguler, évidemment, l'activité... inflammatoire, donc quercétine et boswellia sont les bienvenus. Je rajouterai la fibre d'acacia pour l'effet prébiotique et pour activer un petit peu les acarmentia. Je mets souvent, oui, peut-être quelque chose pour de la détox au niveau du foie. La N-acétylcystéine me semble une bonne, un complément très intéressant. Il n'est pas très cher, mais surtout, il est surtout très intéressant pour la détox dans un environnement parfois un peu toxique comme nous le vivons actuellement. Je rajoute souvent des enzymes digestives, donc des lactases, des maltases, des protéases, des lipases, etc. Donc vous avez des cocktails maintenant d'enzymes digestives naturelles d'origine végétale. Du gamma-orizanol, c'est souvent proposé, c'est pas l'ingrédient que je connais le mieux, mais ça permet effectivement de renforcer un petit peu l'action au niveau du mucus. C'est très intéressant puisque ça a un effet un petit peu reperméabilisant, ça refait les joints du carrelage, c'est comme ça que je dis aux patients, comme ça ils comprennent plus facilement. La mélisse pour le système nerveux central, pour l'action au niveau émotionnel. La myrtille se paraît intéressant aussi. Les polyphénols en général, pas forcément la myrtille, mais tous les anthocyanes sont très intéressants pour traiter le stress oxydant. Des vitamines du groupe B, de la vitamine E, du zinc, du sélénium, pour agir sur l'oxydation et l'inflammation au niveau de la barrière, ce qui fait déjà un produit plutôt complet.
Ouais, enfin, une synergie, s'il vous plaît.
C'est toujours une synergie, oui.
Là, on parle de synergie, il y en a d'autres, hein, mais celle-ci, c'est celle que vous préconisez, en sachant que, encore une fois, ça ne se substitue pas à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste. Absolument. Pour savoir si tout cela, ça peut vous convenir. Faites les bilans nécessaires. Mais bon, là, on n'est pas, encore une fois, dans la prescription. Hein. Donc, voilà, ce sont des petits actifs comme ça d'intérêt que je vous invite d'ailleurs à fouiller si vous avez des renseignements, des infos, vous aussi. Quels sont, selon vous, chers auditeurs, quels sont, il y a beaucoup de médecins qui nous écoutent et de professionnels aussi de bien-être ou de santé diverses dans différentes spécialités. Quelles sont vos synergies, quels sont vos actifs un petit peu stars que
bien
vous
sûr.
Allez,
venez en discuter sur le plateau de...
Sur le plateau. Sur le plateau
de Nutri Radio. Et surtout, avec moi, Dr Renaud, c'est Santé Intégrative, l'émission la plus écoutée aujourd'hui.
Presque. De la bande FM.
De la bande FM. Tout le monde se l'arrache.
De la bande FM.
D'ailleurs, le problème, c'est que mon cher Fabrice, ça va être compliqué de me garder parce qu'aujourd'hui, je suis très sollicité. Ah oui, alors attention, j'avais une annonce à faire l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que vous aurez les moyens de me garder ?
Vous savez, j'ai les moyens de vous faire parler.
Mais je resterai, bien sûr, c'est une blague. Je peux plus me passer de mes auditeurs et de Fabrice.
Et donc, c'est une bonne réponse. C'était une bonne... Merci beaucoup, Vincent Renaud. On va se retrouver la semaine prochaine. Mission à retrouver en podcast sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et tout de suite, c'est le retour de la musique sur Nutri Radio.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.